master, et puis j'avais un bureau à l'étage où j'ai écrit mon premier livre, qui est maintenant l'essentiel des grands thèmes de la Bible, que j'ai quelques exemplaires là. Mais c'est un plaisir de voir une assistance aussi nombreuse. Nous sommes dans un petit village en Écosse, la plupart du temps, où l'assistance au culte en moyenne le dimanche matin, c'est environ 12. Et alors, ça fait plaisir de voir, de prêcher une fois à une congrégation un peu plus importante. Notre société actuelle est en souffrance à plusieurs niveaux, et je ne parle pas seulement de la situation politique. En Angleterre aussi, on a eu des peines politiques pendant tout un temps. Maintenant que Brexit est acté, on respire, quoique l'avenir nous réserve peut-être des surprises. Mais notre société souffre plutôt à un niveau sociétal sur le plan intellectuel par la question de manque de réponse aux grandes questions que tout le monde se pose. Il y a un grand vide quand on réfléchit au sens de la vie, à l'au-delà, à l'existence de Dieu, la moralité, des choses ainsi. Une grande confusion, une grande incertitude, une angoisse même, parce que apparemment, il n'y a pas même de réponse possible. Et au deuxième niveau, la société souffre moralement, parce que s'il n'y a pas de réponse concernant les grandes questions du bien et le mal, eh bien, tout le monde choisit pour lui-même ce qu'il va faire, comment il va vivre, et la tendance étant vers le bas, hein, la société gringole moralement, dans l'hédonisme, dans le relativisme et dans l'immoralité. Et c'est dans cette société que nous avons, nous chrétiens, à proclamer un message justement de vérité et de sainteté. Vérité tellement importante pour notre société et sainteté également très importante pour notre société. Nous n'annonçons pas notre philosophie, nous n'annonçons pas nos idées personnelles, nous avons annoncé Jésus. Et mon texte ce matin, c'est en Jean chapitre 8, verset 30. J'aimerais lire les versets 30 à 36, où Jésus lui-même explique son ministère. Il dit ceci, comme Jésus disait cela, donc il avait enseigné déjà certaines choses, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru, donc maintenant il donne un enseignement à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus apporte vérité et Jésus apporte liberté, une vérité qui rend libre de notre ignorance, de notre perplexité concernant les grandes questions de la vie. Et il apporte également un salut par lui-même, par la foi en lui, qui libère de l'esclavage au péché. J'aimerais donc d'abord parler de Jésus apportant la vérité, ensuite parlant de Jésus, le Fils qui nous libère par son salut. Versets 31 et 32, Jésus promet que si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libre. Libre de nos angoisses existentielles qui viennent de manque de réponses. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi à quel point notre société est perplexe concernant les grandes questions de la vie. Question d'identité humaine. Qu'est-ce que l'homme ? Question sur la sexualité. Comment vivre la sexualité ? Question de culpabilité. Question de sens de la vie. Question sur l'au-delà, sur l'existence de Dieu. Toutes ces questions-là, notre monde est dans la plus grande confusion. Dans la science, on approche la recherche de la vérité, nous sommes reconnaissants au progrès technologique dans la science, qu'apporte la science. Mais quand la science cherche à traiter, et certains scientifiques usent de leur autorité scientifique pour oser dogmatiser en matière d'existentialisme et de questions philosophiques, mais quand ils abordent ce sujet, ce n'est pas leur terrain. Les médecins ont besoin d'un comité d'éthique pour des questions d'éthique parce que la science ne traite pas en tant que telle les questions d'éthique. La science n'aborde pas les problèmes existentiels, ne peuvent pas apporter des réponses. Et même en philosophie, ce n'est pas mieux. La philosophie semble être arrivée au constat que par la science, par la philosophie plutôt, il est impossible de trouver des réponses universelles ou une vérité absolue pour répondre aux questions existentielles qui se posent. La philosophie, la science n'ont pas la réponse. Les religions non plus. Parce que les religions, finalement, toutes les autres religions du monde, sauf le christianisme, sont en fin de compte des philosophies religieuses, des inventions humaines qui proposent des idées religieuses. Ce n'est pas la même chose que le Christ qui, lui, vient de la part de Dieu dans le monde pour nous apporter une vérité absolue. Dieu seul peut révéler et donner et connaître la vérité absolue qui s'applique à tous les êtres humains, dans tous les temps et dans tous les pays. Mais voilà, c'est ce que Jésus vient avec. Si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous connaîtrez la vérité. Voilà sa promesse, vous connaîtrez la vérité. Nous, chrétiens, nous pouvons affirmer, en recevant la parole de Dieu, connaître la vérité. Nous avons reçu, dit le Nouveau Testament, la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et il a révélé la vérité dans sa parole. Jésus dit dans ce chapitre même, au verset 42, il dit, « C'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Donc Dieu m'a envoyé, je suis sorti de Dieu. Et puis au verset 40, il dit, moi je suis un être humain qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans ce chapitre et dans les chapitres 5, 6, 7 aussi, Jésus énonce beaucoup de paroles absolues comme celle-là. Descendu du ciel pour vous annoncer la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et alors il dit au verset 46, « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Nous avons le privilège, nous chrétiens, d'avoir cru en Christ et par notre foi en Christ, d'avoir accès à cette vérité. Et c'est une vérité bienfaisante, c'est une vérité qui répond justement à toutes ces questions existentielles qu'on se pose. Voilà donc, Jésus promet la vérité vous rendra libre, mais il y a une condition à cette promesse, et c'est si vous demeurez dans ma parole. Dans son livre L'esprit de l'athéisme, à André Comte-Sponville, un philosophe français athée, se permet quand même de citer les paroles de Jésus, « La vérité vous rendra libre ». Ça, c'est une parole avec une assonance assez positive. « La vérité vous rendra libre », mais il omet de mettre le contexte. Et même dans le contexte, il dit, dans son livre, « Si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça change ?» Son message est quand même à côté de la question, ce cher philosophe. Non, il y a une condition pour connaître la vérité qui rend libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous avons à continuer, demeurer signifie ça, continuer dans sa parole, recevoir continuellement sa parole, avec foi, y croyant comme c'est la vérité réelle, révélée de Dieu, avec repentance, en mettant notre vie en ordre avec cette parole, en obéissance et soumission, recevoir continuellement cette parole, comme vous faites dimanche après dimanche ici dans l'Église, et il faut venir tous les dimanches, entre parenthèses, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, pas seulement pour se reposer, il faut garder saint le jour du Seigneur dans les 10 commandements. C'est pour passer un moment dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs en Christ, pour se ressourcer spirituellement, pour écouter sa parole, mais aussi de la lire et de la méditer chez soi, pour vraiment que cette parole façonne nos pensées. Ceux d'entre vous qui sont, beaucoup d'entre vous sont encore très jeunes, je vous conseille de faire comme moi j'ai fait dans ma jeunesse, mémoriser systématiquement des versets bibliques. Quand vous trouvez un verset que vous trouvez bien, intéressant, eh bien, inscrivez-le sur un carnet, gardez ça à côté de votre lit, avant de vous endormir, regardez ça, peut-être dans votre appareil aujourd'hui, je suis à côté de notre génération, moi. Et alors, le matin, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez appris la veille? Et ainsi, la parole de Dieu entre progressivement et façonne toute votre façon de vivre et de voir le monde et la vie. Et cette parole vous affranchit, vous libère de ces angoisses, de ces incertitudes. Vous savez que la Bible dit ça parce que vous l'avez retenu. Vous avez ça textuellement dans vos têtes. Alors, progressivement donc, on demeure, c'est un progrès, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une croissance, c'est une discipline, de jour en jour, méditer, réfléchir, appliquer, et faire de cette vérité notre vérité personnelle. Nous sommes sauvés, dit la Bible, par la foi dans la vérité. L'Évangile, c'est la vérité. L'évangile de salut, c'est la parole de vérité. Éphésiens 1, verset 7 et Colossiens 1, verset 5. La parole de la vérité. Nous avons le privilège, nous chrétiens, non seulement d'avoir accès à la vérité, mais de faire de ça notre vérité. C'est la vérité universelle, c'est la vérité absolue, révélée par Jésus. Et cette vérité, c'est ce dont le monde autour de nous a désespérément besoin d'entendre. Parce qu'ils sont dans la confusion la plus totale. Jésus dit, au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis il nous dit, en Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. » Quand nous avons reçu la lumière de Christ, nous pouvons aller dans le monde avec cette même lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà donc une première promesse de la part de Jésus. La vérité nous vous rendra libres, mais demeurez donc dans sa parole. et elle vous rendra libre. Deuxièmement, le verset 36 dit, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est une autre sorte de liberté ici, puisque Jésus a parlé du deuxième maladie du siècle, non seulement l'ignorance intellectuelle, mais le mal moral, l'hédonisme, l'immoralité, le péché. Le péché est dans la nature humaine. Qu'est-ce que le péché? Comment est-ce qu'on définit le péché? Jésus dit ici, celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est grave, ça. Le péché est dans notre nature. En Écosse, nous habitons à 200 mètres d'un champ, c'est pas un champ, c'est un terrain de boules britanniques. Vous jouez la pétanque chez vous, n'est-ce pas? Mais en Angleterre, il y a des boules. Et dans les boules en bois, il y a un poids sur un côté. Et même si on veut lancer ça étroitement, obligatoirement, ça penche. Ça, c'est la nature humaine. Malgré nous, nous avons cette tendance en nous vers le mal. Le péché est dans notre nature. Quiconque commet le péché est esclave du péché parce que le péché, en notre nature, domine et rend la vie dure et obscure et noire et difficile. Donc Jésus définit notre esclavage en disant « Quiconque commet le péché est esclave du péché. Qui » Qui commet le péché? Tout le monde. D'ailleurs, au chapitre 8, au verset 7, quand Jésus voit cette femme accusée d'adultère, il dit à la foule que celui qui est sans péché lui jette la première à la pierre. Tout le monde s'est rendu compte. Aucun n'est sans péché. Nous sommes tous pécheurs. Et le problème, ce n'est pas seulement que nous avons péché, mais que c'est que le péché est dans notre nature. Alors c'est à ce niveau-là que Jésus aussi apporte la libération, l'affranchissement. Il nous libère réellement du péché. Peut-on devenir libre de péché? Oui, Jésus le promet. Il le fait en trois paragraphes, ou trois points, si je peux dire. Premièrement, Jésus libère de la condamnation du péché. Le péché, une fois commis, comporte obligatoirement une peine. C'est comme une infraction de la loi. On est coupable si on est arrêté, si on a fait l'infraction, pas moyen d'en sortir. Le péché aussi, une fois que nous avons péché, nous sommes de ce fait coupables et la culpabilité, c'est ce qui se passe entre le péché et la punition, liant les deux ensemble. Celui qui a péché est coupable, la culpabilité exige que la peine soit infligée. Et ça, c'est le problème dans lequel nous nous trouvons en tant qu'êtres humains pécheurs. Le pouvoir du péché, c'est son pouvoir d'exiger que nous soyons punis. Le diable agit sur cela aussi quand il nous accuse. Tu as fait ça, tu mérites ça. Il y a du sens dans ce que le diable dit, mais le diable omet de faire allusion au sacrifice de Christ, parce que c'est ça, justement, la solution à ce problème de la condamnation pour le péché. Mais la punition du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Un nuage de condamnation pèse sur le pécheur, donc. Tous les êtres humains, qu'ils acceptent, qu'ils comprennent ou non, ils sont sous ce nuage de culpabilité qui les amène vers une punition juste. La colère de Dieu demeure sur eux. Jean 3, 36. Alors de cela, Jésus nous libère. Jésus libère de ce poids de culpabilité en prenant sur lui, sur la croix, notre péché, notre culpabilité. Il a porté nos péchés dans son corps sur la croix, dit Pierre. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été blessé pour nos fautes, il a été écrasé pour nos iniquités. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est parce que Jésus a porté la condamnation, il a porté nos péchés, il a porté le fardeau, la peine, le châtiment, la punition que nous méritions, que quand nous venons à Christ, nous sommes libérés de cela. Le pardon, c'est cela. Libérés de culpabilité, libérés de crainte de punition future, justifiés, acceptés comme justes par le Seigneur lui-même. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ, donc, apporte une libération totale de la condamnation de péché en mourant à notre place. Deuxièmement, il y a une libération que Jésus apporte du pouvoir dominant du péché. Et ici, j'aimerais lire quelques versets en Romains chapitre 6, parce que Romains chapitre 6, Paul traite également de l'esclavage du péché. Verset 15 et jusqu'au verset 18. « Quoi donc, dit Paul, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ?» Question théorique. Certainement pas. Ce n'est pas que nous sommes maintenant sauvés pour pécher encore. Et il dit ceci, « Ne savez-vous pas ?» Autrement dit, vous devriez savoir ceci. Que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. C'est logique. Soit, dit-il, au péché qui conduit à la mort, comme nous étions autrefois esclaves du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Maintenant, nous ne sommes plus soumis au péché. Nous sommes maintenant libérés de ce péché. Mais nous sommes esclaves, dit-il, d'obéissance, qui conduit à la justice. Que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, ça s'est passé maintenant, vous étiez esclaves du péché. Vous avez obéi du cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié, vous avez autrement dit compris l'évangile, vous êtes confié à Christ, vous avez répondu positivement à l'évangile. Une fois libéré du péché, maintenant, Paul dit là, vous êtes libéré du péché, mais vous êtes devenu esclave de la justice. Donc libéré du péché, esclave de la justice. Dans cet esclavage à la justice, cependant, il y a une œuvre merveilleuse et unique dans toutes les religions du monde qui s'est opérée pour nous donner une libération intérieure par rapport au péché. Ça se passe d'abord, ça se passe par la nouvelle naissance et par le don du Saint-Esprit qui nous est donné. Quand nous croyons en Christ, nous recevons le Saint-Esprit en même temps. C'est notre nouvelle naissance. Et par cette transformation, cette nouvelle naissance, Paul dit, ici aussi en Romains 6, au verset 4 et 5, « Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec Christ, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, nous passons par une mort, spirituellement parlant, et une résurrection. Nous mourrons et nous cassons la domination du péché sur nous en mourant avec Christ et nous sommes ressuscités par la puissance du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit de Christ vient en nous, nous apportant la vie du Christ dans notre fort intérieur. C'est ainsi que nous pouvons vivre par la force de Christ une victoire sur le péché qui autrefois dominait notre existence. Pour revenir à notre image des boules anglaises, c'est comme s'il y avait, par le Saint-Esprit, un poids complémentaire ou contraire mis sur l'autre côté de la boule, pour ne pas que nous soyons toujours orientés vers le mal, que nous ayons également une puissance qui nous oriente vers le bien, vers la sainteté, et qui produit le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes donc exhortés à marcher selon l'Esprit, et la promesse est donnée, Galates 5, verset 16, « Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voilà la promesse. Il y a une délivrance de la puissance dominante du péché dans la vie du chrétien. Il est vrai, des péchés qui sont plus ancrés en nous que d'autres, et ça prend du temps, parfois, à les combattre, mais la puissance du Christ est là pour nous donner la victoire, pour nous libérer. Le Fils vous rend réellement libre, de sorte que nous puissions vaincre le péché. Il n'y a aucune tentation qui ne vous est parvenue, dit la Bible, 1 Corinthiens 10, verset 13, que Dieu donne en même temps la capacité de la surmonter, de la vaincre. Donc, nous devons viser dans notre cheminement chrétien de gagner des victoires sur le péché par la puissance du Christ en nous, par son Esprit Saint. Et ça exige de nous que nous marchions selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est quoi? C'est faire confiance à la puissance divine du Saint-Esprit en vous pour vous donner la victoire sur les péchés, justement. Il faut avoir confiance dans la puissance de Dieu. Par nous-mêmes, vous avez essayé de vaincre le péché, vous n'avez pas réussi, mais comptez sur le Seigneur. Et par la confiance dans le Seigneur, engagez-vous à vaincre, c'est la deuxième chose, marcher selon l'Esprit, c'est obéir avec une discipline, avec l'aide du Saint-Esprit, les deux ensemble. Ainsi nous marchons dans la victoire. Et ce que Jésus promet ici, le Fils vous rendra libre, sera notre expérience. Il est vrai cependant que même si nous pouvons gagner des victoires sur le péché dans notre nature et vivre une vie comme souvent dans le Nouveau Testament, il est question des personnes qui sont sans reproche. Il faut être sans reproche pour être ancien, par exemple. Donc, c'est possible pour un être humain d'être sans reproche, pas parfait, mais néanmoins victorieux sur le péché. Cependant, le péché reste toujours dans la boule. Mais là encore, il y a une délivrance. Le Seigneur nous rend libres, troisièmement, parfaitement, même de la présence du péché en nous, quand nous sommes au ciel avec lui. Nous allons vers un ciel où aucun péché n'est admis. Aucun pécheur n'est admis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en Apocalypse 21, il n'entrera point rien de souillé, rien qui fait des pratiques abominables, seuls ceux qui sont libres de condamnation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que nous entrions dans un ciel où il n'y a pas de péché, alors que le péché est attaché à notre existence actuelle? Ça s'appelle, dans la théologie, la glorification. Le corps ressuscité, ou quand nous partons auprès du Seigneur, le péché est enlevé de notre nature. Romains, chapitre 8, vous connaissez ce verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », verset 28. Verset 29, verset suivant, qui dit ceci. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous sommes donc en voie d'être conformes progressivement dans cette vie-ci, mais parfaitement dans la vie future, à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a accordé la gloire dans cette traduction, mais il les a aussi glorifiés, la traduction plus correcte de ce conte. Il les a aussi glorifiés. À la fin de notre parcours terrestre en tant que chrétien, Dieu nous glorifie. C'est le sommet de notre conversion, de notre salut. C'est la libération définitive et éternelle de tout péché dans notre existence. Quand Jésus revient, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Sans péché dans notre nature. Alors sera accompli le troisième volet de cet affranchissement du péché que Jésus promet ici en Jean chapitre 8. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. La pleine et définitive libération du péché sera quand nous verrons le Seigneur face à face et nous serons semblables à lui pour toujours. Au ciel, le péché ne se commet pas. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de Dieu est faite parfaitement. C'est pour ça que nous prions que la volonté de Dieu se fasse mieux sur la terre contre le mal et dans nos vies. Mais quand nous serons là, dans la présence du Seigneur pour toujours, il n'y aura plus de racine. La racine, la partie de la boule sera enlevée. Dans le corps ressuscité, il n'y a aucune tare de péché. Le Seigneur est un merveilleux sauveur. Ayons donc confiance que dans ce monde, non seulement nous sommes appelés à vivre une vie de victoire sur le péché et être un exemple de lumière dans la société, mais nous avons aussi apporté la lumière des réponses bibliques, la vérité absolue, que le monde ignore totalement parce que le monde cherche seulement à partir de l'homme. Nous avons une lumière venant de Dieu. Nous pouvons hardiment et avec confiance partager cette vérité à ceux qui sont dans les ténèbres autour de nous. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous appelles à marcher dans la lumière et à être la lumière du monde, comme toi, Jésus, tu étais la lumière du monde. Que nos vies, Seigneur, soient illuminées par ta sainteté et par ta vérité, par ton Esprit Saint et par ta parole, afin que nous puissions être des instruments qui rayonneraient de ta lumière dans ce monde de confusion et d'immoralité dans lequel nous vivons. Rends-nous, Seigneur, des témoins vivant, brillant pour toi dans ce monde de ténèbres, pour la gloire de ton nom. Amen.